Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 80, chapitre 12. La question des correspondances entre les religions me taraudait. Il semblait que dans ma quête, comme dans un chemin jalonné par des passages, on me confrontait de façon ordonnée à de grandes interrogations. La physique quantique m'avait amené aux liaisons entre les objets avant que le mouvement mondial des spiritualités m'ait été confirmé par Raphaël, et au moment où moi-même je débutais la plus importante liaison amoureuse de ma vie. Par ce que j'aurais dénommé auparavant le hasard, je venais d'entendre une émission que j'avais podcastée sur une radio française qui traitait de la liaison de la gémellité chez les Maasai, ce peuple qui vit entre la Tanzanie et le Kenya. Selon leur tradition, chacun avait un double quelque part. Dans la physique quantique, comme je l'avais lu et écrit, les choses étaient toutes connectées. Elles n'étaient pas vraiment dans une direction précise, mais dans tout l'espace mis à leur disposition, selon les dires de Max Planck. Je comprenais bien que ces correspondances entre les choses remettaient en question la vision cartésienne d'un monde uniquement dû au hasard d'un Big Bang et de l'évolution. J'avais tracé un trait définitif sur ce que je considérais désormais, paradoxalement, comme une croyance. Lisangela et moi entamâmes-nous une relation sépulcrale. Nous savions que notre lit pouvait être son tombeau. Tout cela aurait dû être sinistre. C'était passionné et joyeux. Nous n'oublions pas la distance de l'humour. D'autre part, j'avais de moins en moins peur de la mort et m'efforçais de la faire aller par le même chemin. Elle était originellement moins effrayée par elle. Elle avait toujours été mon affaire, alors qu'elle était survenue dans sa vie comme une menace constante à laquelle personne n'aurait pu ne pas penser. J'avais fini par lui parler du défibrillateur. Elle m'avoua qu'elle avait entamé la démarche, mais qu'elle était toujours en attente. « Pourquoi ne pas nous rendre à l'étranger, Lisangela, pour te le poser ?» Elle ne dit pas oui, pas non. Je savais que je ne parviendrais pas à l'y amener si simplement, qu'elle n'avait pas les moyens économiques de s'y rendre, et qu'elle n'accepterait pas mon aide d'emblée. Nous voulions profiter de tous les instants. Ses élèves particuliers venaient désormais chez moi. Elle, qui était plutôt rétive aux manifestations de ses sentiments et toujours un peu en recul, se livra complètement. Elle me disait qu'elle m'aimait, que je lui plaisais, que je lui manquais, dès que je franchissais la porte. Et c'était là que cela devenait dur. Sa possible proche absence était rendue lointaine par sa présence, mais se rapprochait aussitôt que je la perdais de vue. J'ai vécu 8 mois avec une femme en sursis. Je suis en mesure de répondre à la question qu'il est coutume de se poser. Que ferais-je si je savais que j'avais 6 mois à vivre ? Lisangela choisit de laisser parler ses sentiments. Je sais maintenant que c'est important, qu'il faut s'exprimer sans pudeur avec les gens qu'on aime. On craint les débordements sentimentaux, particulièrement en Europe, et on regrette de ne pas y avoir cédé quand l'absence s'installe. Nous faisions l'amour, nous buvions, nous mangions, nous allions au théâtre et au cinéma. Jamais je n'ai vu tant de films qu'à cette époque. Un jour que j'embrassais Lisangela devant l'entrée du restaurant El Bolivariano de Pueblo Libre, où d'ailleurs on mangeait de savoureux plats créoles, je vis entrer Emilio Robles, le nouveau de mon ex. Il était avec 2 hommes qui lui ressemblaient, qui portaient la même tenue vestimentaire passe-partout qu'affectionnaient les Liméniens d'un certain âge. Une chemise à large col, un pantalon de costume anonyme et des chaussures très brillantes, l'œuvre d'un des très nombreux cireurs de chaussures que la ville comptait et dont cette génération continuait d'user. Je me dis que le lendemain, je ne manquerai pas de recevoir un coup de fil mi-intrigué, mi-courroucé de Roberta. Nous dépensions beaucoup d'argent, plus que nous ne pouvions raisonnablement nous le permettre. Mais pourquoi devions-nous nous priver ? Lisangela amplifiait les degrés de sa vision. Elle voulut qu'on lise les détails de ce que le livre tibétain de la vie et de la mort disait de cette dernière. Il faut dire qu'il trônait, imprudemment peut-être, sur la petite table qui me servait de chevet à côté de mon lit. C'était le même Sogyal Rinpoche qui écrivait que notre cerveau ne transformait en réalité consciente qu'une partie des informations qu'il reçoit, comme une torche qui n'éclairait qu'une partie de l'obscurité. Si cette torche se mouvait, elle pouvait rendre visible d'autres bouts de réalité dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. J'avais l'impression que Lisangela commençait à explorer ces autres espaces. J'admirais sa lucidité. Une autre approche bouddhiste traduisait cette attitude que le lama Padmasamten avait abordée lors de la retraite de Lurin. Elle consistait à observer de près son problème et puis à prendre du recul. La mort n'est ni déprimante, ni séduisante, elle est tout simplement une réalité de la vie, lisait Langella. Oui, mais Sogyal Rinpoche écrit aussi que la mort est à ses yeux plutôt un changement de vêtements vieux et usagés, une véritable fin, répondais-je. La luminosité fondamentale caractérisait, d'après les bouddhistes, le début de la vie comme sa fin. Lisangela convenait que le corps, après la mort, était comme un bagage qu'on laissait derrière soi. Nous apprîmes que le terme tibétain pour désigner le corps est lu, ce qui signifie ce qu'on laisse derrière soi. Sais-tu, Lisangela, que Sogyal Rinpoche écrit aussi que la mort peut être une grande inspiration? Je regrettais aussi ces paroles qui banalisaient l'épreuve qui attendait peut-être ma compagne et qui demeuraient terribles.